RFI.
Les coqs chantent les jours pareils, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous vous amenons à la 10e édition des Journées Africa Day 2018, organisée par l'ONG internationale SOS Sahel à Dakar au Sénégal, les 4 et 5 mai derniers. Le thème de cette année est en plein dans le regard de l'actualité. Sahel, cap vers une agriculture familiale. Comment assurer une valorisation des potentiels locaux? Quelle coalition d'acteurs pour bâtir avec les communautés un avenir durable? Il nous faut d'abord dire un ou deux mots sur SOS Sahel, autrement dit savoir qui invite. SOS Sahel a été fondé en 1976 par le président Léopold Sédar Senghor à la suite d'une période de sécheresse extrême. SOS Sahel agit aujourd'hui dans 11 pays de la bande sahélienne, du Sénégal à Djibouti. Dès le départ, la mission confiée à SOS Sahel est d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés rurales d'Afrique subsaharienne. L'ONG SOS Sahel a été créée parce qu'il y avait une situation d'urgence et elle a poursuivi son action pendant plus de 40 ans parce qu'il y a également sur le long terme des défis. Il faut savoir que plus de 300 millions de personnes vivent dans la zone d'intervention de SOS Sahel. 32 millions d'entre elles sont en situation d'insécurité alimentaire, 7 millions en situation d'urgence. 60% des terres arables ne sont pas cultivées. D'ici 2030, le nombre de personnes vivant dans les zones arides en Afrique devrait augmenter de 60 à 85%. Dans la zone du Sahel, l'agriculture est la principale source de revenus pour près de 90% de la population. Enfin, d'ici 2050, l'Afrique aura 2 milliards d'habitants à nourrir. Globalement, on peut résumer en disant que SOS Sahel et ses partenaires ont pour mission d'affronter tous ces défis que nous venons de citer. Et c'est pourquoi il était opportun de tenir ces journées africaines ou Africa Days. L'idée, c'est d'abord de réunir tous les intervenants dans les 11 pays d'intervention de SOS Sahel en parfaite synergie avec les autres programmes régionaux dans lesquels SOS Sahel s'implique pour échanger sur les expériences et les vécus afin de dresser un bilan d'étape. Au programme, il y a des ateliers où se tiennent des discussions savantes, un lieu de causerie appelé « Sous l'arbre à palabres » où les discussions sont tout aussi sérieuses et ce que les concepteurs de SOS Sahel ont appelé le marketplace. On pourrait dire qu'il s'agit d'un espace d'exposition des initiatives, une sorte de marché aux idées. Salifou Ouedraogo est directeur des opérations de l'ONG SOS Sahel.
Le Sahel, c'est surtout une bande qui va de Dakar à Djibouti, où il y a pas mal de difficultés, surtout en termes de production agricole, et également en termes de pastoralisme. Et c'est une zone qui a quand même des potentialités où il faut arriver à valoriser.
Monsieur Dago, je vais tenter de résumer. Il y a près de 300 millions d'habitants. Tout le monde pratiquement vit d'agriculture. Et c'est justement là qu'il y a des problèmes.
Exactement, c'est surtout là qu'il y a des problèmes. Et les solutions au Sahel, c'est surtout faire en sorte que les producteurs puissent avoir accès à un certain nombre de services pour pouvoir booster leur production et pouvoir vraiment mieux vendre et pouvoir vraiment faire face à l'insécurité alimentaire.
Alors, disons que habituellement les populations avaient des solutions locales, même si elles ne marchaient pas pleinement comme on le voulait. Là-dessus sont venus se greffer les dérèglements du climat.
Exactement. Il existe des solutions locales au Sahel. Cependant, il y a les effets du climat aussi qui font que ces solutions doivent encore être adaptées. Et nous, au niveau de SOS Sahel, nous sommes arrivés à trouver des solutions que nous avons adaptées aux différents milieux qui permettent d'améliorer les rendements, qui permettent d'accroître les revenus, mais ces solutions se font de façon localisée avec des projets pilotes. Ce qu'il faut au Sahel, c'est surtout arriver à trouver que les financements puissent suivre pour permettre aux Sahéliens de pouvoir avoir tous les moyens et de pouvoir mettre en valeur ces savoirs locaux qui seront de plus en plus sont adaptés, sont au milieu.
Alors, nous sommes à Dakar, nous sommes là à l'invitation de SOS Sahel et de ses partenaires. Bon, je n'aime pas le mot, mais pour ce que vous appelez Africa Day, c'est la 2e édition. Alors, pourquoi organiser ces journées?
On organise ces journées parce que c'est en Afrique que nous devons trouver les solutions qu'il nous faut. Et ces journées, c'est des journées où on crée les rencontres entre privés, entre les gouvernements, entre la société civile, pour partager les bonnes pratiques qui existent au Sahel. Et là, nous discutons avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour qu'ils voient qu'il y a des possibilités qui existent, il y a des bonnes pratiques qui existent. Il ne suffit que de les mettre à l'échelle. Parce que nous avons travaillé au niveau pilote pour mûrir ces modèles et aujourd'hui, il ne reste qu'à mettre ces modèles à l'échelle. Prenons l'exemple des centres de services. On sait que les populations en milieu rural ont des difficultés pour avoir accès à un certain nombre de services, comme les services intrants, les services de microfinance, les services de conseil à l'exploitation. Et tout ça, il suffit de vraiment d'organiser, il suffit d'accompagner les acteurs locaux, accompagner les organisations fêtières pour qu'elles-mêmes elles s'organisent et pouvoir faciliter l'accès des producteurs à ces services.
Et qu'est-ce qu'il y a dans ces pôles de services?
C'est un guichet villageois où il y a plusieurs services. Et ces services sont constitués de services d'appui conseil, de services d'accès à la microfinance, des services d'accès aux intrants, agro-posteraux, et des services d'accès au plan.
À la santé?
À la santé, des services d'accès au warrantage. Donc c'est un ensemble de services qui sont là, un pôle de services qui est là, qui est organisé, qui est porté par une structure ferroviaire pour permettre, pour faciliter l'accès à des producteurs pour booster leur production. Aujourd'hui, avec la mise en place de ces pôles de services, c'est pour permettre aux producteurs de se professionnaliser, de pouvoir avoir accès à ces centres de services et de pouvoir produire plus, de pouvoir vendre, de pouvoir commercialiser. Parce que dans les centres de services, il y a également le volet transformation, il y a le volet commercialisation.
Pour en revenir à ces journées, j'ai regardé qui est là, j'ai écouté les différentes interventions. Ça va des ministres, des ministères, aux organisations internationales, à vos partenaires, à des groupes de producteurs. En fait, l'idée, c'est de mettre tout le monde ensemble et de dire voilà un axe de discussion que nous vous proposons. Ce que vous appelez la capitalisation, vous techniciens.
Exactement. Ici, les journées Africa Day, c'est pouvoir créer une coalition d'acteurs.
Vous parlez même de coalition?
Oui, c'est une coalition d'acteurs, l'adhésion de tous, que ce soit le privé, le public, les financiers, tout le monde, toutes ces coalitions d'acteurs-là, pour pouvoir voir comment on peut booster les filières les plus porteuses.
Chacun apporte son idée?
Oui, et chacun apporte son idée, chacun apporte sa contribution, pour que les filières porteuses-là, nous pouvons vraiment les mettre au service des Sahéliens.
Alors, il y a un autre anglicisme que j'aime pas. Market, là, vous avez dit?
En fait, c'est le marketplace.
En fait, c'est une place où on expose tout, quoi. Chacun expose son expérience.
Oui, le marketplace, c'est un marché où tu viens pour trouver des innovations, tu viens pour trouver des bonnes pratiques et que tu viens partager, tu viens donner ta bonne idée, ta bonne expérience et tu reçois aussi des bonnes présences des autres. Et ça te permet de faire une combinaison de bonnes pratiques pour pouvoir vraiment mettre en place de nouvelles innovations et pouvoir booster ta production, pouvoir vraiment encadrer les producteurs, les accompagner.
En fait, c'est un marché où on ne vend rien, on vient pour chercher, on reçoit, on glane, on donne.
Exactement. Ce n'est pas un marché où on vient acheter, mais c'est un marché où tu viens partager, tu viens recevoir de bonnes pratiques et tu viens vraiment ruminer, comme on a dit, le brainstorming pour voir comment, avec toutes ces bonnes pratiques, tout ce marché-là, comment tu peux arriver à créer, innover de nouvelles choses pour booster, pour vraiment créer le développement au Sahel.
Mais c'est pour ça que les discussions, c'est tout azimut, là, c'est un peu partout, tout le monde discute avec tout le monde.
Exactement, exactement. Vous voyez comment tout le monde est là, on discute, les gens sont vraiment, vraiment, vraiment intéressés, les gens s'approprient le marché, les gens apportent les innovations, ils discutent, ils apportent les solutions, ils disent, voilà ce que je pense par rapport à telle bonne pratique qui est sur la place du marché, comment on pourrait l'améliorer. C'est ça vraiment la marketplace.
Mais vous voyez bien que 2 jours, ce n'est pas suffisant.
Oui, 2 jours, ce n'est pas suffisant. Mais on a dit que les bonnes choses aussi, il faut les raccourcir pour que les gens puissent vraiment donner, que ça soit intense, que chacun puisse vraiment apporter de lui-même.
Bon, je vois qu'on vous attend, là, on me regarde un peu partout. Je vous remercie.
Merci, c'est à moi de vous remercier, M. Traoré. Et j'espère que la voix du Sahel, nous allons pouvoir faire en sorte que le Sahel vraiment devienne une zone vivable et une zone où on va booster l'insécurité alimentaire et la malnutrition dehors.
Merci.
Merci.
À présent, le marketplace ou marché aux initiatives. Il s'agit d'une enfilade de stands où chaque acteur de terrain vient montrer ce qu'il fait dans son terroir à l'aide d'affiches, de documents et de produits locaux. Ce marketplace a été imaginé comme un outil de démonstration des partenariats existants et fonctionnels, alliant agriculture durable et valorisation des produits locaux. Les structures participantes pourront exposer leurs stratégies, leurs valeurs, les principes qui guident leurs actions, les difficultés ainsi que les succès qui jalonnent leur itinéraire. Le premier stand que nous reçoit est un exemple de ferme familiale d'Isa & Co., une PME spécialisée dans la transformation de l'arachide, des noix de cajou et du maïs.
Sylvie Sagbo-Gomard, vous êtes ici chez Isa & Co. Isa & Co. est une PME familiale qui a été créée en 82 officiellement, mais qui a commencé en 1977. Ma mère a commencé à proposer arachide, notamment les arachides en 77 devant la porte. Elle était en congé de maternité, elle s'ennuyait, elle s'est dit pourquoi pas faire quelque chose. Et elle a commencé à proposer des arachides et très rapidement ça a pris forme et elle a commencé à distribuer ses produits dans les supermarchés.
C'était des arachides grillés ?
Elle faisait des arachides grillés, des arachides pralinés, elle faisait du nougat, donc ça fait son petit bout de chemin.
Il y a ça ici ?
Oui, vous pouvez les goûter tout à l'heure. D'ailleurs, il y a du monde autour. Vous pensez à passer et à goûter. Donc, elle a commencé comme ça, à Dakar. Et on est aujourd'hui, 35 années plus tard, on est présent dans tous les supermarchés du Sénégal. Donc, on est parti de cette idée de ma maman qui voulait faire quelque chose. Et ça a fait son petit bout de chemin. Donc, moi, je suis sa fille. Et après 23 ans en France, où j'ai travaillé dans la finance de marché, autour des traders et des... Et tout ça là, donc je suis revenue pour vendre des arachides, des cacahuètes. Donc me voilà rentrée depuis 2015 et donc je suis venue voilà, mettre un petit coup de pouce voilà, et puis changer un peu tout ce qui est packaging parce qu'effectivement on a beau être une PME avec des bons produits, on a besoin derrière d'avoir un bon marketing alors que ma mère qui a aujourd'hui 76 ans, marketing ça ne voulait rien dire pour elle. D'ailleurs l'étiquette qu'elle a commencé en 82 c'est la même que j'ai trouvée en 2015. Donc voilà, donc je suis arrivée. J'ai mis un peu, en fait, c'est toute cette nouvelle ère, on va dire. Hein. On est sur Facebook, on travaille beaucoup avec sur le cloud et on est présent aujourd'hui à l'aéroport à l'AIBD. On est dans certains hôtels. Au niveau du packaging, on a une ensacheuse donc, qui nous permet d'avoir nos sachets plastiques transparents. Depuis 2017, on a été rejoint dans la société par un fonds d'investissement pour nous aider dans la croissance de la société. Ils sont là pendant 5 ans et ils ressortent au bout de 5 ans. Et donc, nous avons pour objectif de pouvoir passer de la PME familiale à une grande multinationale. On va construire bientôt une unité de transformation parce qu'attention, tout ce qu'on fait jusqu'à présent, on le fait dans une usine maison. Quand je suis arrivée en 2015, on avait 9 employés, on en a 22 aujourd'hui. Donc on emploie aussi bien des femmes qui sont allées à l'école ou pas, parce que pour la partie opérationnelle, on les forme. Et depuis quelques temps, je commence à utiliser, à travailler avec des jeunes qui ont fait de l'agroalimentaire pour la partie tout ce qui est management, pour pouvoir monter, en fait, pousser un peu à l'avant ceux qui ont appris et qui n'ont pas forcément tout ce qui est des notions de HACCP, tout ce qui est hygiène qualité. Donc on a besoin d'avoir ces deux types de ressources pour pouvoir rééquilibré. Et donc, on travaille finalement avec DGIE en Casamance pour la noix de cajou, puisque c'est de là qu'elles viennent, à Kafrine Kaolack pour l'arachide, parce qu'effectivement, l'arachide qu'on reçoit au Sacré-Cœur, qu'on transforme, elle a été décortiquée. Donc il y a des GIE derrière, les noix de cajou, pareil. Et on est sur des produits assez innovants. Par exemple, là, vous avez des pralines d'arachide au gingembre. Je fais des noix de cajou épicées piment gingembre. On a des pralines de noix de cajou au sésame. Je fais du cajoutella. Donc c'est une pâte à tartiner à base de cajou. Exactement. Pour vous rappeler un peu quelque chose, je fais du beurre de cajou, grillé, salé, qu'on utilise en cuisine comme en snack. Et ces produits peuvent être exportés aussi bien dans les pays du Sahel que beaucoup plus loin à l'international. Et on a prévu pour 2019 d'avoir une unité pour le bio au niveau de notre usine qu'on va construire à Curiaïlo, un peu en dehors de Dakar.
Moi j'ai un problème, quand vous allez industrialiser ça, est-ce que ça va garder le goût de ce que la maman faisait ?
Ah oui, ça je peux vous dire qu'on va garder le goût. Qu'est-ce que vous appelez industrialiser ? Moi, ça va toujours être du fait main. Je vais avoir des machines. Mais ce qu'on va conditionner aura été préparé de manière traditionnelle.
Ça me rassure.
Les recettes sont traditionnelles et elles resteront traditionnelles. Et la méthode de cuisson au feu de bois restera au feu de bois.
Oui, parce que la cuisine des jeunes, c'est joli, mais ça n'a pas le même goût que...
Je peux vous dire que la cuisine des jeunes, c'est chez Lisa & Co, est la même cuisine que la cuisine des vieilles, puisqu'on est passé par là.
On change de stand, paraît-il.
Merci.
Comme ma collègue vous a dit, bienvenue à Djibouti pour nous. Donc on passe de l'autre côté du continent.
Pendant cette visite, il y a une règle importante pour tout le monde. C'est le son du tambour qui dit qu'un groupe doit passer sur le stand suivant et laisser la place à d'autres personnes. Ainsi fait, pour nous, le stand suivant est celui de l'agence SOS Sahel du Djibouti. Ici, il est question d'agriculture et de décentralisation. La question est importante parce qu'à Djibouti, 56 à 85% de la population souffre d'insécurité alimentaire et des effets des chocs climatiques. Dans le même temps, en zone rurale, les autorités régionales dépendent très fortement des décisions du gouvernement central. Kwama desserrer un tel étau, voilà le dilemme.
Nous, quand je dis nous, je dis SOS Sahel. Hein. SOS Sahel amène avec son expertise. Elle accompagne ce processus de décentralisation et de développement local sur plusieurs points, notamment le premier étant le renforcement de capacité des autorités locales, mais également aussi des communautés. Parce qu'on cherche avant tout à ce que les autorités locales comprennent leur place en matière de maître d'ouvrage et de premier responsable du développement local de leur région. Mais on cherche également aussi à ce que les communautés prennent en main leur destinée. C'est-à-dire qu'elles créent des activités génératrices de revenus. Nous ne sommes pas comme dans les pays de l'Afrique de l'Ouest où nous arriverons à faire des grandes productions à la chaîne ou bien des productions de beurre de karité. Nous ne sommes pas là. Nous répondons d'abord à ce qu'il y ait une organisation communautaire déjà autour de petites activités génératrices de revenus. Je parle bien d'activités agro-silvo-pastorales. Je prends un exemple, une ferme caprine avec 50 têtes de bétail. Elles produisent du lait. Elles le consomment avant tout pour réduire, bien sûr, le besoin en matière alimentaire. Mais ensuite, le surplus, elles le revendent sur le marché local. Et ce qui fait que ça génère un peu d'argent. Donc, c'est l'objectif que nous recherchons. Il y a également l'organisation de producteurs qui s'organisent autour de coopératives agricoles et qui vont de la production jusqu'à la chaîne, jusqu'à la consommation. Là aussi, c'est un plus pour SOS Sahel parce qu'on leur apprend tout ce qui est management. Organisation de la coopérative, donc c'est tout un accompagnement d'expertise qui est fourni, parce que là où le défi se situe à Djibouti, c'est à ce niveau-là. Tout vient du niveau central et nous voulons couper ça, et je pense que c'est bien parti, mais nous ne sommes pas encore à la même hauteur que beaucoup d'autres pays, mais nous avons quand même une bonne initiative qui est lancée. C'est des projets de 3 ans, mais ce qui fait que nous, on a aussi une autre stratégie, c'est que nous ne travaillons pas seuls sur le terrain, nous avons des partenaires locaux, c'est-à-dire des associations locales. Le transfert de compétences se fait avant tout, SOS Sahel transfère à ses partenaires locaux et c'est les partenaires locaux qu'ils mettent en œuvre avec les communautés sur le terrain. Il faut comprendre que les producteurs existent, mais ils sont de manière un peu individuelle. Donc quand on est sur le marché, on n'est pas efficace quand on est individuel. Donc ce que nous cherchons, c'est qu'il y ait déjà une organisation au niveau des producteurs pour qu'ils puissent participer à revendre leurs produits sur le marché local. Il faut comprendre qu'au niveau du pays, tout est importé de l'extérieur. Donc ce que nous cherchons, c'est de valoriser déjà ce qui existe.
Merci madame. Après la décentralisation à Djibouti, nous abordons les questions de valorisation du beurre de karité au Mali et au Burkina Faso. Produit d'exportation important au Mali et au Burkina Faso, le beurre de qualité permet de confectionner une diversité de produits pour le marché local et international. Surtout, c'est une filière investie par les femmes rurales qui en ont fait un véritable levier d'épanouissement personnel et de bien-être familial. Seulement voilà, la ressource est aujourd'hui menacée par de mauvaises pratiques agricoles. Blaise Sommet, coordinateur SOS Sahel au Niger.
Quand on parle de karité, on parle de femmes. Au Burkina Faso comme au Mali, ce sont les femmes qui sont investies dans ce secteur. Et c'est un secteur qui leur permet d'améliorer leur sécurité alimentaire. C'est également une ressource qui est très très importante parce que c'est un levier économique pour les femmes et également un levier économique pour ces pays. Et dans ce sens, nous avons travaillé à accompagner ces femmes pour améliorer la qualité de la production et augmenter la production et en plus également diversifier les produits du karité. L'une des difficultés d'abord c'est la ressource elle-même parce qu'aujourd'hui c'est une ressource qui est menacée. Elle est beaucoup exploitée par les femmes mais elle est menacée du point de vue pratique agricole. De plus en plus au Burkina comme au Mali, nous avons beaucoup de producteurs qui s'investissent dans la culture du coton, une culture de rente. Et à travers ça, les labours, tous les jeunes pousses sont... voilà. Et nous avons déjà ce handicap. Et en plus, deuxième frein au développement du beurre de qualité, c'est la qualité. Parce que les femmes, depuis longtemps, produisent avec une technique rudimentaire, avec du matériel rudimentaire, si bien que la production, elle est faible. Donc, elle n'arrive pas vraiment à valoriser cette production. Je laisserai Isabelle vous montrer une solution pratique que nous avons mis en place, qui permet aux femmes d'améliorer non seulement leurs revenus, leur sécurité alimentaire et vraiment leurs conditions de vie.
Moi, je suis chargée de la collecte des fonds auprès des particuliers en France. Donc l'idée, c'était de rapprocher justement nos donateurs des femmes du terrain. Voilà.
Et quand vous dites que vous avez aidé ces femmes à améliorer la qualité et la façon de travailler, qu'est-ce que vous avez fait ?
Par la formation. SOSAL les accompagne par la formation. On a des formatrices qui se déplacent dans les groupements. Elles se sont regroupées en groupements pour pouvoir améliorer la qualité et utiliser les formations qui sont financées par SOSAL.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Alors, stimuler l'élevage, c'est qui ? Ils ne sont pas là ? C'est vous qui vous occupez de l'élevage, là ? Je vous écoute. Je suis un groupe à moi tout seul.
À présent, les problèmes d'élevage au Sénégal. Il s'agit d'un pastoralisme plutôt considéré comme une tradition, plutôt qu'une activité ayant vocation à rentabilité. Le système d'élevage dominant, c'est la transhumance, considéré par les agriculteurs comme un mal nécessaire.
Ben ici, nous nous occupons d'élevage et nous occupons d'accompagner les éleveurs à améliorer leurs pratiques. Les éleveurs de la zone nord du Sénégal sont des éleveurs qui pratiquent la transhumance, mais on les accompagne pour qu'ils puissent déjà avoir du lait toute l'année, donc en stabilisant une partie du troupeau, en prélevant dans le troupeau une partie, dont ils améliorent l'alimentation, mais aussi le suivi sanitaire, afin de pouvoir avoir du lait toute l'année.
Mais là, il y a un problème, parce que si vous partez de la transhumance à la mini-ferme, la coupure elle est radicale. Est-ce que vous les accompagnez ?
En fait, on n'invente rien. Eux-mêmes, ils ont besoin de stabuler parce que s'ils veulent du lait pendant la saison sèche, donc après l'hivernage, ils le font déjà. Sauf qu'on leur dit maintenant, il faut qu'ils aient des vaches assez performantes localement, donc qu'ils trient dans le troupeau des vaches qui sont les plus performantes et qu'elles puissent les accompagner donc en mettant en place un système d'alimentation correct, donc en améliorant la santé et qu'ils puissent avoir le lait localement. Et le marché est garanti avec la laiterie du berger.
La laiterie du berger, c'est quoi ?
La laiterie du berger, voici M. Bagoré, donc c'est le directeur même de la laiterie du berger, donc qui a fait le pari au Sénégal de récolter du lait local et donc d'améliorer la collecte du lait local. Et ça, ce pari fait qu'il y a un marché local qui est garanti pour les éleveurs pour fournir ce lait.
D'accord. À nous deux, puisqu'on vous a dénoncé, la laiterie du berger.
Bonjour.
Alors, ça a commencé quand, cette laiterie du berger ?
Ça a commencé en 2007, la production, il y a 11 ans maintenant déjà.
Qu'est-ce que vous appelez la production ? Vous achetez, vous revendez ?
C'est ça, c'est ça. Donc, la laiterie du berger, c'est une entreprise. Donc, elle fabrique des produits laitiers frais. Pour ça, elle a besoin d'une usine. Et avant l'usine, elle a besoin d'acheter des matières premières. Et en particulier, là, c'est le lait des éleveurs du nord du Sénégal.
Et l'usine est où ?
À Richard Toll, au nord pas très loin des éleveurs.
D'accord, je connais les châtoiles, mais les éleveurs, ils sont dans la zone du nord, pourquoi ?
Bon, là-bas, traditionnellement, c'est une zone d'élevage, quoi. C'est une zone où, culturellement, il y a beaucoup de pasteurs. Mais il y a aussi le voisinage des agriculteurs, parce que sur le fleuve, il y a toujours eu de la culture. La culture de décrue à l'époque et aujourd'hui la culture irriguée. Voilà. Donc il y a tout un écosystème qui, pour moi, est propice vraiment au développement d'une grande économie entre l'agriculture et l'élevage. Avant, on avait nos traditions. Maintenant, il faut qu'on relise ça avec une lecture actuelle et qu'on essaye tous de tirer notre épingle du jeu.
Si j'ai bien compris, le problème qu'ils avaient, c'était de trouver un marché pour le lait qu'ils produisaient.
Exactement, c'est ça. Le lait, ça s'abîme vite, on ne peut pas le conserver. Au bout de 2 heures, il commence à cailler.
Donc, 2 heures ?
Ah ben c'est ça, il fait chaud ici. Donc après la traite, il faut aller vite et l'amener dans une usine pour le traiter. Et comme on est loin des grandes villes, des grands centres de consommation, il faut ensuite consolider la production là et l'amener dans les grandes villes, à 400 km, 500 km. Il faut une filière, donc il faut tous les maillons.
Et c'est donc ça. Vous avez mis tout ça en place ?
Oui, nous, on a mis ça en place à notre échelle, à la laiterie. Maintenant, il faudrait que... Ça, ça a une vocation, disons, nationale, quoi. Une entreprise peut faire ça, bien, mais il faut plus que ça. Il faut plusieurs entreprises. Il faut un cadre aussi. Il faut une vision nationale pour ça. Il faudrait même une vision régionale, parce que l'élevage, c'est quelque chose... L'élevage sahélien, c'est un problème régional. Les problèmes de changement climatique, les problèmes d'accès à la formation, les problèmes d'accès au marché, c'est les mêmes au Sénégal qu'au Mali, qu'au Niger, qu'en Mauritanie, etc.
Mais c'est comme vous me dites, c'est normal, parce qu'un fleuve, il ne va pas s'arrêter à la frontière. Un troupeau en transhumance, il s'en fout de la frontière. Et quand vous avez un problème de fourrage et qu'il y a du foin de l'autre côté, vous y allez.
C'est exactement ça. Bon, donc avant que ça se transforme en conflit, on a intérêt à organiser notre économie entre agriculteurs et éleveurs. Et c'est pour ça que des éléments structurants comme une usine qui essaye d'organiser les éleveurs, de trouver des espaces de dialogue et qui va faire le lien avec les organisations de producteurs, par exemple de riz dans la région du fleuve, pour acheter le son de riz, pour organiser le ramassage de paille, qui organise le ramassage de la mélasse, de canne à sucre, etc. C'est des éléments extrêmement structurants sur lesquels il faut compter pour développer nos économies territoriales.
Est-ce que Sahel vous a aidé dans ce travail-là ?
Oui, vous savez, les entreprises privées, le problème c'est qu'elles sont limitées par...
Mais moi, j'ai le droit de me fâcher pour avoir le silence.
Donc, les modèles privés, hein, même les modèles privés sociaux, ils sont limités quand même par la rentabilité. Quelque chose qui n'est pas rentable, comme la formation. La formation, c'est une rentabilité sur le très long terme, 30 ans. Hein, ça ne se discute pas, il faut former. Mais une entreprise ne peut pas financer la formation des enfants, des éleveurs par exemple. Bon, ben, je pense que mettre des ONG à côté de nous, impliquer même des agences gouvernementales à côté de nous, pour aller là où l'entreprise seule ne peut pas aller. Donc les infrastructures, faire plus de puits, faire la formation des éleveurs, etc. Ça, c'est là où SOSL nous apporte son concours, quoi.
Je vous remercie.
La semaine prochaine, nous allons vivre la deuxième phase de ces journées africaines en participant à une visite de terrain au Lac Rose, dans le village de Noto, dans la commune de Mboro et à Guitié-Séré, dans les cuvettes maraîchères de la zone côtière de Niaï. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Mouchinski, au micro Sayuba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Et pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Avant de se quitter, ce rappel, vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, c'est très facile. Il vous suffit de télécharger l'application RFI Pure Radio. Vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.